بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وتلاوة القرآن ونحمد الله ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى التوفيق في هذا الشهر العظيم ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر آمين. Donc, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, le thème, le mois du Ramadan, réveil du cœur, et on pourrait même dire réveil des consciences aussi. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, je pense que c'est la même remarque un peu dans toutes les mosquées. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un match de foot, n'est-ce pas ? Je ne sais pas d'ailleurs c'était entre qui et qui, je sais que la France jouait. Et on a remarqué dans pratiquement toutes les mosquées que ce jour-là, ce soir-là, les mosquées se sont vidées. Hein ? Les mosquées se sont vidées à moitié pleines, voire même quelquefois, il ne restait plus que quelques rangs. Alors ça, c'est très symptomatique. C'est très symptomatique et c'est aussi, ça confirme bien l'importance du sujet. C'est que vous avez remarqué que durant 11 mois, on s'est occupé de notre corps. En ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les apparences, en ce qui concerne les vêtements. On a même mis beaucoup d'argent. Même chose pour la raison. On est parti à l'école, on a étudié. Le cœur, quelle est la place du cœur dans notre financement, dans le temps qu'on lui accorde? C'est ça la grande question. Alors, alhamdoulillah, Dieu est miséricordieux, il nous a donné la chance, il nous a même obligé pendant un mois de délaisser ce côté matériel. Il nous a dit, la nourriture que vous avez le droit de manger, la boisson qui vous est autorisée durant les autres mois, elle vous est interdite durant 30, 29 ou 30 jours. Vous les délaissez, toutes ces désirs, hein, toutes ces passions, tous ces plaisirs, vous les délaissez pendant un mois et vous vous occupez de votre cœur. Et heureusement que Dieu nous a obligés durant un mois, car si il ne nous avait pas obligés, il nous l'avait juste demandé à titre d'invitation, on ne l'aurait pas fait, je pense. Et alhamdoulilah également que Dieu nous a imposé 5 fois dans la journée, à des heures différentes, de nous tourner vers lui quelques minutes pour justement garder ce contact avec lui. Alors, en parlant du football, je me souviens l'année dernière, j'étais parti à la rencontre d'un savant et il me disait, j'ai un problème avec mon fils, c'est que c'est un accro du foot. Il adore le foot. Alors, il me dit un jour, je me suis énervé, je lui ai dit, ne sais-tu pas que Dieu ressuscite les gens avec ceux qu'il aime ? C'est-à-dire que les gens seront ressuscités le jour de la résurrection avec ceux qu'ils aimaient sur terre. Et il lui a dit, si tu aimes ces joueurs de foot à ce point-là, est-ce que tu aimerais être ressuscité avec eux le jour de la résurrection, ça serait ça ton désir? Ou bien préfères-tu être ressuscité avec les gens pieux, avec le prophète et ses compagnons? Alors bien entendu, le fils a dit, je veux être ressuscité avec ceux que j'aime, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons. Il lui a dit, alors délaisse le football. Hein, ne consacre pas autant de temps au football, mais consacre du temps à ce qui est prioritaire, à ton cœur. Hein, à ta raison, à tes études. Trop de foot, c'est pas bon. Un petit peu, ça va, mais trop, c'est pas bon. Mais vous savez ce qu'a dit le fils, et ça m'a fait un peu sourire, mais le père en a pris conscience, il a dit, oui, mais papa, tu me dis ça, mais toi, je te vois, tu aimes la course des voitures. C'est-à-dire que le père, quelquefois, il allumait la télé, il regardait les courses de voitures. C'était sa petite passion. Et là, le père a dit... Il n'a pu que reconnaître, il a dit à son fils, oui, alors je prends la décision d'arrêter de regarder ces courses de voitures et toi tu prends la décision d'arrêter de regarder ces matchs de foot ou en tout cas d'exagérer dans la vision de ces matchs de foot. Et tous les deux ont pris cette décision, et alhamdoulilah, ça s'est bien passé après. Donc ça montre à quel point aussi les parents, quand ils demandent des choses à leurs enfants, il faut qu'ils soient à la hauteur, il faut qu'ils soient des modèles. On ne peut pas dire à nos enfants de faire quelque chose alors que nous-mêmes on fait le contraire, ou bien on n'en est pas à la hauteur. Ça ne peut pas marcher. L'éducation, ça, c'est avant tout avec le modèle. Luqman al-Hakim. Vous connaissez la sourate qui porte le titre de Luqman, cet homme sage, cet homme saint. D'ailleurs, toute une page est consacrée à les exhortations de Luqman, les derniers conseils de Luqman à son fils, avant de mourir. Un jour, Luqman al-Hakim était avec son maître, il était serviteur au début. Et son maître lui dit, Luqman, va me chercher dans le bétail qui est là, hein, le troupeau de chèvres ou de moutons, ramène-moi le meilleur morceau de viande que tu peux trouver dans l'animal. Alors Luqman part, il exécute l'ordre de son maître, il égorge une bête, et qu'est-ce qu'il ramène ? Il n'a pas ramené une épaule, ni même une côtelette, ni même un gigot, mais vous savez ce qu'il a ramené ? Il a ramené le cœur. Et il a donné à son maître le cœur. Alors le maître a été surpris, mais il n'a rien dit. Plusieurs temps après, il dit à Luqman, va me chercher dans le troupeau une bête et tu me ramèneras de cette bête le pire morceau que tu trouveras chez elle. Alors Luqman al-Hakim part, il égorge la bête et vous savez ce qu'il ramène à son maître ? Il ramène le cœur. Et là le maître est surpris. Il dit, je t'ai dit deux fois la même chose et tu m'as rapporté deux choses différentes. Excusez-moi, je t'ai dit deux choses différentes et tu m'as rapporté deux fois la même chose. Et là, Luqman a dit cette parole sage, il a dit, quand le cœur est dans le corps d'un croyant, alors c'est la meilleure partie. Et quand il est dans le cœur d'un croyant qui désobéit à Dieu, alors c'est la pire partie. Et cette parole-là, elle rejoint le hadith authentique du prophète. Ala wa inna fil jasadi mudra. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps une partie, un morceau, qui si il vient à se réformer, il vient à s'améliorer, à être bon, alors tout le corps va devenir bon lui-même. Et quand on dit le corps, c'est aussi ce que fait le corps, ses actes. Donc si le cœur est réformé, il est bon, alors tout le reste va suivre. Car c'est lui le centre. Hein, c'est lui qui prend les décisions. C'est de là que vient l'intention. De même que, au contraire, si le cœur vient à être mauvais, alors tout le reste va être mauvais. Alors, vous voyez bien que ce qui est important chez le croyant, avant tout, c'est son cœur. C'est son cœur. Dans la sourate, dans une sourate, Dieu nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où, et on part du jour de la résurrection, le jour où ni vos progénitures, ni vos enfants, ni même votre argent ne vous seront d'aucune utilité si vous ne venez pas avec un cœur pur, salim, un cœur saint. Et ils ont fait, il y a plusieurs années, aux États-Unis, des statistiques. Ils ont pris 100 personnes. Et ils leur ont posé comme question, quel est votre projet ? Quel est votre grande ambition dans la vie? Et les 100 personnes ont eu à peu près la même réponse. Il y a eu des différences dans la formulation, dans le style, mais au fond c'était la même chose. Les 100 Américains ont dit, notre but dans notre vie, c'est la gloire, la notoriété et l'argent. Être riche et connu. Hein, le fameux rêve américain, riche et connu. Et là, Dieu nous dit dans le verset, ta richesse et ta notoriété, car vous savez que on s'enorgueillit par nos enfants. Nos enfants, c'est notre fierté. Donc, ni la richesse, ni même ta notoriété, ne te seront d'aucune utilité si tu ne viens pas avec un cœur pur. Mais si tu viens avec un cœur pur, alors tes enfants et ta richesse seront ceux qui vont te faire entrer au paradis. Alors qu'au contraire, si ton cœur est impur, si ton cœur est mauvais, si tes actes sont mauvais, tes enfants seront une preuve contre toi le jour de la résurrection. Ils diront « Au Seigneur, mes parents ne m'ont pas éduqué. Au Seigneur, mes parents n'ont pas été un modèle. Ils n'ont pas enseigné l'islam. Ils n'ont pas été derrière moi. Ils m'ont laissé. » De même que ta richesse, l'argent va témoigner contre toi. Il ne m'a pas utilisé dans ce qu'il fallait. Il mangeait des choses illicites, etc., etc. Alors que notre société, comme vous le savez, c'est le discours inverse. Vous n'avez de situation, vous n'avez de valeur dans cette société qu'à travers votre corps, qu'à travers votre statut social. Nous, c'est l'inverse. Aux yeux de Dieu, ce qui fait notre supériorité, c'est notre cœur. Hein? Comme c'est venu dans Sourate Al-Hujurat, Dieu nous dit Inna atqakum indallahi, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus grand, le meilleur d'entre vous, le plus noble, vous savez c'est qui? Ce qui fait notre supériorité à nous là, ici. Ce n'est pas ton travail, ton argent, ta notoriété, etc., ce qui est visible. Ce qui fait ta supériorité, ta valeur aux yeux de Dieu, c'est ton cœur, ta foi, ta piété. Et Dieu nous dit, dans Surat al-Baqarah, hein, dans le verset où nous a été prescrit le jeûne, il nous dit, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Le but du jeûne, la finalité du jeûne, c'est quoi? Je vous ai prescrit le jeûne, ô vous qui portez la foi, ainsi qu'aux générations précédentes. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été la loi de Dieu. Pourquoi Dieu nous a prescrit le jeûne? Afin que vous atteigniez cette piété, afin que vous viviez la piété durant ce mois, afin que, enfin, vous vous tourniez vers ce qui est important en vous-même, afin que vous vous détourniez des choses futiles de cette vie et que vous reveniez à ce qui va vous sauver le jour de la résurrection, c'est-à-dire la santé de votre cœur et non pas de votre corps. Et cette société nous dit « Tu es parce que tu as ». Et Dieu nous dit « Tu es parce que tu as comme qualité et non pas ce que tu as comme corps ou ce que tu as comme richesse ». Donc, le mois de Ramadan, il vient nous réveiller. Il nous met une claque, il tape du pied dans la fourmilière et nous dit « Réveillez-vous, ce qui est important, c'est la santé de votre cœur ». Alors, ça c'était l'introduction. Maintenant, la question c'est « Quels sont les signes, quelles sont les caractéristiques du cœur vivant ?» D'abord, avant de se demander comment avoir un cœur vivant, est-ce que le cœur peut mourir ? Oui, le cœur peut mourir, bien sûr. Le cœur est vivant, il peut mourir. Et vous savez ce qui le fait mourir? C'est lorsqu'il s'éloigne de Dieu. Et lorsque les péchés s'amoncellent, lorsque les péchés le recouvrent, alors là, il devient dur comme la pierre. « Thumma qasat qulubukum » Les Juifs. Dieu dit dans la sourate Baqara, quand il parle de cet épisode de la vache, il dit à la fin, parce que Dieu leur a demandé de faire quelque chose, il leur a donné un ordre. Ils ont discuté cet ordre. Ils n'ont cessé de répliquer. Ils n'ont pas voulu se soumettre dès le premier ordre. Ils ont comme ça poussé l'échéance jusqu'à ce que leur cœur se soit endurci. Et à la fin, il s'en fallut peu pour qu'ils fassent ce que Dieu leur a demandé. Et il faut qu'on prenne exemple des générations précédentes. Si vous voulez que votre cœur soit vivant, si vous ne voulez pas avoir un cœur de pierre, il faut, lorsque vous entendez Dieu qui vous parle ou le prophète qui vous parle, il faut tout de suite et absolument essayer d'appliquer ce qu'il vous dit, le plus vite possible. Ou sinon, le cœur s'endurcit. Alors oui, le cœur meurt et le cœur se dessèche. La preuve, Dieu nous dit dans Sourate Al-Anfal, « Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi » وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ô vous les croyants, répondez à l'invitation, à l'appel de Dieu et de son prophète, à ce qui va vous revivifier, à ce qui va vous redonner la vie. Lima yuhyikum al-hayat, ce qui va vous donner la vie. Et après, wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sachez, et ce sera ça le premier point qu'on va développer, et sachez que votre Seigneur, votre Dieu, s'interpose entre vous et votre cœur. C'est-à-dire que Dieu est très proche. Alors la première qualité du cœur vivant, du cœur qui craint son Seigneur, du cœur qui vit une spiritualité, c'est le cœur vigilant. Celui qui ressent cette raqaba, cette proximité, ce regard de Dieu. Et la grande réussite, pour le croyant, vous savez ce que c'est ? Et à plus forte raison, dans cette société de consommation matérialiste, la grande réussite, c'est de se détourner du regard des gens vers le regard de Dieu. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih ? Il nous dit, fima ma'na, le sens, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum ila qulubikum wa a'malikum. Le sens du hadith, qui est sahih, c'est que Dieu ne regarde pas vos corps, ni vos images, mais Dieu porte son regard, son attention sur votre cœur et sur vos actes. Le cœur et les actes. Alors, c'est quoi ce cœur vigilant ? C'est le cœur qui ressent le regard de Dieu. Et c'est d'ailleurs le plus haut degré que peut atteindre le croyant, c'est l'ihsan. C'est de ressentir ce regard au quotidien, que Dieu te voit, que Dieu te surveille. Un homme est venu voir un savant. Il est venu lui demander l'autorisation de commettre un péché. Il lui a dit, donne-moi l'autorisation, la permission de commettre un péché. Le savant a eu une réponse très intelligente. Il lui a dit, si tu remplis une des quatre conditions que je vais te donner, alors vas-y, tu peux faire le péché. Il lui a dit, premièrement, commets ce péché dans un endroit qui n'appartient pas à Dieu. Va dans un endroit sur terre qui n'appartient pas à Dieu, qui échappe à Dieu, qui n'est pas de sa propriété, qui échappe au regard de Dieu, et commet ce péché. Alors, celui qui est venu demander cette autorisation, il dit au savant, mais c'est impossible, car toute la terre appartient à Dieu, et on ne peut échapper à son regard. Il lui dit, d'accord, je te donne une deuxième alternative. Commet ce péché, oui, sans manger de la nourriture de Dieu, ni même boire de l'eau que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, la subsistance que Dieu te donne, prive-t'en et commets ce péché. Car il est illogique de commettre, de désobéir à celui qui te nourrit. Alors, commets ce péché à condition que tu ne manges ni de la nourriture de Dieu, ni de sa boisson. Et l'homme de s'exclamer, mais c'est impossible. Il lui dit, d'accord, je te donne une troisième solution. Commets ce péché, mais dis à l'ange qui est sur ta gauche et qui écrit, qui enregistre les mauvaises actions, de s'arrêter. Commets ce péché, mais dis à l'ange qui est à ta gauche de ne pas écrire cette mauvaise action. Il lui dit, c'est impossible. Et là, après lui avoir donné ces quatre solutions, donc dans un endroit qui n'appartient pas à Dieu, dans un endroit où tu ne vas pas, dis à l'ange qui écrit les mauvaises actions, ne mange pas de la subsistance de Dieu. Il lui a dit, tu t'es moqué de moi, je suis venu pour avoir une autorisation, tu t'es moqué de moi. Et le savant lui dirait, non, je ne me suis pas moqué de toi, c'est toi qui t'es moqué de toi-même. C'est toi qui te mens à toi-même. Car tu viens de prouver que tu n'échappes pas au regard de Dieu. Donc comment peux-tu commettre ce péché ? Donc la première qualité du cœur qui peut se prétendre vivant, qui a atteint cette taqwa, cette piété, parce que la piété, c'est en fait c'est la vie du cœur, hein, cette piété. C'est en fait pour vous donner une image, c'est l'eau en dehors de laquelle le poisson ne peut vivre. Ce cœur sans piété, il ne vit plus. Et Dieu nous dit dans une sourate, il nous dit qu'il est aussi proche de son serviteur que la veine jugulaire. Dieu dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est nous, Dieu dit, c'est nous, c'est moi qui ai créé l'être humain et je sais ce que lui dicte son âme, ce que lui insuffle son âme, sa personne. Et je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. Dieu est extrêmement proche. Il te voit dans tous les endroits. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Ils se cachent des yeux des gens. Quand ils veulent commettre une mauvaise action, ils se cachent des yeux des gens. Ils vont dans un endroit seul. Ils le font la nuit. Mais ils ne se cachent pas des yeux de Dieu. Ils ont honte de faire cette mauvaise action devant les gens. Mais pourquoi n'ont-ils pas honte de la faire devant Dieu? Alors que Dieu est avec eux lorsque la nuit, ils tiennent des propos qu'ils détestent, des propos désagréables. Et si le croyant prend conscience de ce fait, c'est que où qu'il soit, Dieu le voit, alors il a gagné. Alors véritablement, il est pieux. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera, il le fera dans les règles de l'islam, dans les règles de ce que Dieu lui a ordonné. Deuxième qualité du cœur qui est vivant, deuxième signe, c'est le cœur qui est partagé, qui est tiraillé entre la crainte et l'espoir. C'est le cœur inquiet. Le cœur du croyant, vous savez à quoi il ressemble ? Il ressemble à un oiseau. Un oiseau a besoin des deux ailes pour voler. De même que le croyant, le cœur du croyant, il a besoin de la crainte et de l'espoir. Ce sont les deux ailes de son cœur. Si il est trop dans la crainte, alors il va désespérer de la miséricorde de Dieu. Si il est trop dans l'espoir, alors il va se permettre de désobéir à Dieu. C'est pour ça que le cœur, pour qu'il soit équilibré, il faut que la crainte et l'espoir soient sur un juste milieu. Pour que l'oiseau vole, il lui faut deux ailes qui soient équilibrées et non pas une aile ou bien une aile qui soit plus grande que l'autre. Et le cœur du croyant, il est comme un oiseau dans sa sensibilité. Un oiseau, vous lui faites boue, il se sauve. Si vous lui criez dessus, il peut mourir. De même, le cœur du croyant, il est très sensible. Il est sensible à quoi ? Il est sensible à l'enfer et au paradis. Le cœur du croyant, il est sensible à l'enfer et au paradis. Et vous ne pouvez être sensible à ça que si vous vous intéressez à l'enfer et au paradis. Si vous lisez les versets du Coran, les hadiths qui vous décrivent l'enfer et le paradis. Je vais vous donner quelques hadiths. On va commencer par la crainte, la peur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que tous les garçons qu'il a eus sont morts en bas âge. Il en a eu plusieurs. Ils sont tous morts nouveau-nés. Ici, c'est l'histoire de Ibrahim, le fils qu'il a eu avec son épouse Maria. Cette épouse qui était chrétienne, copte, et qui s'est convertie à l'islam, qui est devenue l'épouse du prophète. Il a eu un fils. Le prophète très content, les compagnons très contents, ont fait la fête. Le fils, avant de terminer un an, il était en train d'agoniser. Le prophète est rentré. Les hadiths rapportent ça. Il a pris l'enfant dans ses bras, il était en train d'agoniser. Il est mort dans ses bras. Le prophète a versé des larmes. Il s'en est remis à Dieu. Ils ont enterré l'enfant. D'accord ? Le prophète passe la nuit chez lui et le matin, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a une éclipse. C'est quelque chose qui était assez étranger aux Arabes. Puisque bon, l'éclipse, ça n'arrive pas toujours. Et quand les compagnons ont vu cela, tout de suite, ils se sont précipités à la mosquée. Quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, ils se précipitent à la mosquée pour attendre le prophète. Et le prophète, quand il a vu cette éclipse, il est sorti en courant, précipité. Il s'est rendu à la mosquée et tout de suite, il s'est plongé dans la prière. Et il a fait une prière très longue. On rapporte que la prière était... Le temps de la prière, pour vous imaginer à quel point elle était longue, c'était le temps de lire la sourate al-Baqarah. Donc des heures de prière. Et c'était dur. Et le prophète ne cessait d'invoquer Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose qui était aussi inhabituel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors, il dirigeait la prière. Et pendant qu'il dirigeait la prière, il a eu ce mouvement. Regardez. Il a fait des pas en arrière, comme ça. Il était imam, les gens sont derrière. Et il fait ça. Et il fait ça. Et il se recule. Jusqu'à atteindre le premier rang des compagnons. Quand les compagnons ont vu le prophète marcher à reculons, ils se sont reculés. Et les rangs se sont décalés. Jusqu'à atteindre le rang des femmes qui étaient derrière. Et à un moment donné, le prophète fait le contraire. Il avance. Il tend la main. Et il avance, et il avance, et il avance, et il reprend l'endroit, le poste. Il termine sa prière, il monte sur le minbar et tient un discours. Premièrement, il leur dit, l'éclipse qui s'est produite, ne pensez pas que c'est à cause ou bien grâce à la mort de mon fils. Parce que les croyances de l'époque, c'est que quand quelqu'un de grand meurt, quelqu'un d'important meurt, il y a un bouleversement dans l'univers qu'il se produit. Et le prophète a dit non. Ça, ce sont l'éclipse solaire obéit à des lois qui sont des lois que Dieu a installées dans cet univers. Ça n'a rien à voir avec la mort de mon fils. Et je vous raconterai une histoire par rapport à ce qu'a dit le prophète là. Et ensuite, il dit à ses compagnons, il dit, vous savez pourquoi je me suis reculé ? Parce que Dieu m'a fait voir l'enfer. Et quand j'ai vu l'enfer, je me suis reculé. Et il a dit, j'ai vu cette femme qui a enfermé une chatte, un chat. Elle ne l'a ni laissé sortir pour chasser et se nourrir, ni ne lui a donné à manger pour qu'elle se nourrisse, à tel point qu'elle est morte de faim. Je l'ai vue en enfer, en train de brûler en enfer, à cause de ce qu'elle a fait à cet animal. Alors qu'est-ce que vous pensez à ceux qui font du mal aux êtres humains ? Et il a dit, j'ai vu aussi cet homme qui a rapporté le polythéisme, les idoles dans la péninsule arabique. Je l'ai vu brûler en enfer. Et il a vu beaucoup d'autres choses. Et il a dit, vous savez pourquoi je me suis avancé ? Parce que Dieu m'a fait voir le paradis. Et je me suis avancé. Et j'ai vu tellement des choses belles, j'ai vu les fruits du paradis. Et j'ai tendu ma main et j'étais sur le point de cueillir les fruits du paradis, une grappe de raisin. Et si je l'avais effectivement cueillie, vous auriez l'occasion d'en manger jusqu'à la fin du monde. Mais je ne l'ai pas prise. Et là, il a dit quelque chose. Écoutez-le bien. Il a dit, si Anas rapporte, dans un hadith sahih, que le prophète a tenu un sermon, il a dit, je n'ai jamais entendu un sermon pareil auparavant. Le prophète a dit, après cette occasion, il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rigoleriez très peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous saviez ce que j'ai vu en enfer, les supplices des gens en enfer, vous ne ririez que très peu. Et si vous saviez le supplice qui est en enfer, vous pleureriez beaucoup. Et Anas dit, quand il a tenu ce discours, tous les compagnons ont baissé leur tête entre leurs mains et on entendait dans la mosquée les soupirs, les sanglots des compagnons. Alors, c'est une petite histoire. Un jour, c'était en Égypte, un homme a perdu son fils et il est parti l'enterrer. Et quand il a enterré son fils, il a tenu un discours devant les gens qui ont accompagné ce cortège, et il a raconté l'histoire du prophète, celle que je viens de vous raconter là. La mort de son fils, l'éclipse, et le fait que le prophète n'a pas saisi l'occasion pour dire que ce qui s'est passé comme bouleversement dans le cosmos, c'est parce que mon fils est mort. Autrement dit, mon fils a... c'est pas n'importe qui. Il y avait parmi eux un prêtre qui assistait à cet enterrement. Il est rentré dans l'islam parce qu'il a entendu cette histoire. Il a dit, comment un homme, un prophète, il n'a pas saisi cette occasion immense pour se prétendre Dieu, ou bien pour prétendre que son fils c'est quelqu'un de divin ou c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a dit, le prophète n'a pas saisi l'occasion, ça veut dire que c'est quelqu'un de humble, donc ça ne peut être qu'un envoyé de Dieu. Il s'est converti à l'islam. Je reviens maintenant à... Je vais vous raconter maintenant un autre hadith qui est sahih. C'est un hadith qui fait très peur aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, le matin, après la prière de l'Fajr, d'interroger ses compagnons et de dire, est-ce que il y a quelqu'un parmi vous cette nuit qui a fait un rêve, un songe? Et si un des compagnons disait oui, il lui disait, raconte-moi ton rêve, et il interprétait les rêves. Mais ce matin-là, c'est le prophète lui-même qui raconte un rêve qu'il a fait, un songe. Et vous savez que le rêve des prophètes, ce qu'il voit en sommeil, c'est une révélation. Ou c'est quelque chose de vrai. C'est pas ce que nous voyons en rêve qui n'a pas de signification. Non, non, non. Les rêves des prophètes, ce sont des vérités. Le prophète dit, deux hommes m'ont pris et ils m'ont fait marcher sur un chemin, un sentier. Et tout d'un coup, voilà que j'assiste à un spectacle horrible, horrifiant. Il y a un homme allongé sur le côté, sur son flanc. Un autre est assis dessus, il prend un rocher, il lève le rocher et le jette sur la tête de celui qui est couché jusqu'à ce que la tête se fende en deux, jusqu'à ce que la tête explose, littéralement. Et ensuite, la pierre roule. L'homme qui était au-dessus part, il récupère la pierre, il revient, la tête du supplicié a repris sa forme initiale, du début. Et il recommence, il rejette la pierre sur sa tête, elle se broie, et ainsi de suite jusqu'à la fin du monde. Le prophète est stupéfait, horrifié. Il dit à ses deux compagnons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait cet homme pour qu'il mérite ce châtiment? Et les deux hommes qui l'accompagnent, bon, je vous dis, ce sont deux anges. Les deux anges qui l'accompagnent lui disent, laisse, avance. Avance, on t'expliquera plus tard. Le prophète avance, il continue, et il assiste à un deuxième spectacle horrifiant. Un homme est allongé sur son dos. Un autre, un ange, vient, prend un crochet de fer, il le rentre dans la joue de l'homme qui est allongé, et il tire la joue jusqu'à la ramener au niveau de la nuque. Et ensuite, il rentre la ferraille dans l'œil et il arrache l'œil jusqu'à le ramener à la nuque. Et il en fait de même avec l'oreille. Et ensuite, après avoir terminé la première face, il passe à la face d'à côté. Après avoir fait le flanc droit, il passe au flanc gauche. Et il fait la même chose. Et ensuite, il s'arrête, le visage reprend sa forme normale, il recommence le supplice jusqu'à la fin du monde. Le prophète dit, qu'est-ce qu'a fait cet homme? Les anges lui disent, avance, on t'expliquera plus tard. Il avance, et qu'est-ce qu'il voit? Un fleuve de sang. Dedans, il y a un homme qui nage. Il essaie de rejoindre la berge. Mais à peine s'est-il approché de la berge, qu'un ange l'attend avec un mont de cailloux, et il remplit sa bouche de cailloux, et l'homme, le nageur, revient à l'endroit où il était. Et il recommence, il essaie de rejoindre la côte, et l'ange lui jette les pierres dans la bouche, il revient à son endroit de départ, et ainsi de suite. Le prophète pose la même question, il reçoit la même réponse. Avance. Le prophète avance, et là il voit un homme Le prophète dit, je n'ai jamais vu un homme aussi laid, aussi hideux. Un homme repoussant, horrible. Et cet homme-là, il tourne autour d'un feu. Et il attise le feu. Le prophète demande aux anges qui l'accompagnent, qui est-ce ? Ils disent, accompagne-nous, tu sauras plus tard. Le prophète avance, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un four immense. Le bas est très large, le haut est assez réduit. Et il entend des cris dans ce four. Le prophète avance, il penche la tête dans le four, et vous savez ce qu'il voit ? Il voit des hommes et des femmes nus en bas, et le feu est en train de les manger. Quand le feu arrive, les gens sont projetés en l'air jusqu'à ce qu'ils arrivent presque à l'ouverture. Mais le feu redescend et il retombe au fond. Le prophète pose la même question et il reçoit la même réponse. Il avance et là, les deux anges font monter le prophète à travers un chemin, à travers les arbres, et il voit un château, une enceinte faite d'or et d'argent, une muraille faite d'or et d'argent. Il rentre par cette enceinte dans une ville. Et là, il voit une foule de gens, la moitié du corps et de la plus belle forme. La moitié d'en bas et de la plus laide forme. Et là, les deux anges disent à cette foule de personnes, allez vous plonger dans ce fleuve. Les gens se plongent dans le fleuve, un fleuve qui est blanc, très beau, immaculé. Ils sortent du fleuve et voilà que la partie qui était laide est devenue belle. Ils sont sous la plus belle apparence. Qui sont-ils ? Ils reçoivent la même réponse. Ils rentrent dans un jardin luxuriant, une végétation magnifique. Et ils voient un homme immense, tellement immense que la tête est dans les cieux, dans les nuages, ils ne voient pas la tête de cette personne. Et autour de lui, une foule de petits enfants. Il demande, qui sont-ils ? Les anges lui disent, avance, tu sauras plus tard. Et là, les anges lui disent, ô prophète, ya Muhammad, regarde. Il lui dit, ça, c'est le jardin d'Éden. Et regarde là-bas, lève tes yeux, regarde. Là, il y a un château. Il est magnifique, beau, merveilleux. Il dit, à qui est ce château ? Ils lui disent, c'est ton château. Ça sera ta demeure au paradis. Il dit, laissez-moi y entrer, s'il vous plaît. Et les anges lui disent, non, le temps n'est pas encore venu pour toi de rentrer au paradis, tu as encore du temps à rester sur terre. Et là, le prophète dit, j'ai vu des choses horribles et des choses magnifiques ce soir-là. S'il vous plaît, je veux une interprétation. Et là, les anges lui disent, d'abord, moi je suis Jibril, l'ange Gabriel, et Mikaïl, l'ange Mikaël. Alors, écoutez maintenant qui sont ces gens. La première personne à qui on broyait la tête, on fracassait la tête, vous savez qui est-ce ? C'est cet homme à qui Dieu a donné le privilège d'apprendre le Coran, et pourtant il ne le lit pas le soir et ne le pratique pas la journée. Mais c'est aussi la personne qui, volontairement, ne se réveille pas le matin pour accomplir la prière de l'Fajr. Vous avez entendu ? C'est un hadith sahih, hein ? Donc il n'y a aucun doute sur sa véracité. Vous avez entendu le supplice ? Cette personne à qui on lacérait le visage, à qui on entrait un crochet dans la commissure des lèvres jusqu'à boucher le visage au niveau des vertèbres, qui est-ce ? C'est cette personne qui profère des mensonges à tel point que son mensonge est proféré et colporté à travers les gens. Il se réveille le matin, il ment et ses mensonges sont diffusés entre les gens. Voilà son supplice. La personne qui était en train de couler dans ce fleuve de sang et à qui l'ange jetait des pierres dans la bouche, vous savez c'est qui ? C'est celui qui se nourrit du gain illicite du riba, celui qui mange le riba. Cette personne immonde qui attisait le feu de l'enfer, c'est l'ange qui est chargé de veiller sur l'enfer. Malik. Il y a un ange qui veille sur l'enfer. qui attise l'enfer. Malik, c'est lui. Quelle est cette personne immense avec autour de lui des enfants? Les anges disent au prophète, c'est Ibrahim alayhi salam et autour de lui les nouveau-nés morts en bas âge, hein, les nouveau-nés morts dès leurs premiers instants, qui n'ont pas encore atteint la puberté, les enfants qui sont encore innocents. Ils sont auprès de Ibrahim alayhi salam. Et là, les compagnons vont demander au prophète, sont-ce les nouveau-nés des musulmans, c'est tout, ou bien aussi des mécréants? Il a dit mécréants et nouveau-nés, car ce sont des gens qui sont innocents, ils sont encore en bas âge. Quels sont ces gens? Qui sont ces gens dont la moitié était hideuse, la deuxième merveilleuse, et ensuite, quand ils plongeront, ils sortiront éclatants? Il dit, ce sont les croyants qui ont fait du mal et qui ont fait du bien. Ils ont fait des mauvaises actions et des bonnes actions. Dieu va leur dire, plongez dans un fleuve du paradis, et il va leur pardonner leurs mauvaises actions. Donc, quand on entend ces hadiths, on prend peur. On se dit, mentir. Regardez le mensonge. D'ailleurs, ce hadith est rapporté dans Riyad Salihin, dans le chapitre l'interdiction du mensonge. Il était rapporté pour le mensonge. Il y a des autres hadiths, beaucoup d'autres hadiths, qui font très peur. Quand le croyant les entend, le musulman les entend, il se dit, je suis foutu, je vais entrer en enfer. Mais maintenant, venez, on va écouter les hadiths qui nous donnent espoir dans l'entrée au paradis, qui nous donnent espoir de se faire pardonner nos mauvaises actions. Allah, dans un hadith qui est sahih, le prophète nous dit, il y a des gens le jour de la résurrection qui viendront avec une montagne de mauvaises actions, de péchés, et Dieu va leur pardonner. Une montagne de péchés, Dieu va leur pardonner. Dans un autre hadith, cette fois-ci c'est Dieu qui parle, il dit, ô vous les croyants, ô toi fils d'Adam, si tu me viens à moi, espérant ma miséricorde et ma récompense, alors tu seras satisfait. Si tu viens à moi avec autant que la terre de péché, je viendrai. Alors si tu viens avec autant que la terre de péché, tu te repens et tu ne m'associes rien, alors je viendrai à toi avec autant que la terre de pardon. Tant que tu ne m'associes rien, c'est-à-dire tu meurs croyant, musulman, en adorant Dieu sincèrement, Dieu va te pardonner tes péchés. Et dans un verset du Coran qui est très important, Dieu nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô vous qui avez exagéré, qui avez fait trop de péchés. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de péchés. Dieu dit, Dieu s'adresse à cette personne et lui dit, ne désespère pas de ma miséricorde, car je pardonne tous les mauvais actes. Tout, je pardonne tout. Il suffit juste que tu reviens à moi repentant. Reviens à moi repentant. Alors, il y a un hadith qui traduit bien cet état du cœur, qui est le cœur partagé, le cœur inquiet, partagé entre l'espoir et la crainte. C'est un hadith qui est sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم. Si le croyant, le musulman, savait le supplice, le châtiment qui est auprès de Dieu, alors il va désespérer d'entrer au paradis. Et si le mécréant savait la miséricorde qui est auprès de moi le jour de la résurrection, alors ils croiraient entrer au paradis, tellement Dieu est miséricordieux. Le mécréant lui-même, s'il savait la miséricorde de Dieu, il penserait qu'il entrait au paradis. Donc qu'est-ce que vous pensez du croyant? Donc, Allah ybarfikoum, s'il vous plaît, procurez-vous ce livre, Riyad Salihin. Si on arrive à sortir de cette conférence avec la décision sincère de se procurer ce livre et de le lire, on a gagné. Je ne veux pas qu'on sorte de cette conférence, on a entendu des belles paroles, on a eu peur, on a entendu des belles choses, on sort 2, 3, 4 jours après, une semaine après, un an après, c'est parti. Si vous voulez que ce que vous entendez comme hadith et verset porte ses fruits, il faut prendre des décisions, des bonnes résolutions. Et moi, je vous conseille, et si je peux, je vous dirai même, j'aimerais vous obliger à vous procurer Riyad Salihin. Il coûte pas cher, 18 euros. C'est la nouvelle traduction. Hein. Bon, il y a plusieurs éditions, mais celle-là, elle est bien, parce qu'il y a certains petits commentaires. Procurez-vous ce livre, s'il vous plaît, et faites-en votre livre de chevet. Moi, je vous propose quelque chose. On prend la décision. C'est entre vous et Dieu. Moi, je pars dans 15 jours, je ne serai pas avec vous pour vous surveiller. Mais on prend la décision sincère d'acheter ce livre. 18 euros, c'est pas la mer à boire. 18 euros, on les met dans des kebabs, on le met dans des forfaits téléphones, on le met dans Internet. 18 euros, c'est tout. Vous vous procurez ce livre, j'ai compté le nombre de hadiths, ou plutôt il y avait le nombre de hadiths, il y a à peu près 2000 hadiths. 2000 hadiths, si on se fixe comme objectif d'en lire deux par jour, donc on divise la somme en deux, c'est-à-dire à peu près 1000 hadiths, puisqu'on va en lire deux par jour. Si on lit deux hadiths par jour de Riyad Salihin, en 2 ans et demi, on termine ce livre. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Premièrement, juste pour à titre indicatif, ou bien moi personnellement, j'aimerais savoir qui c'est qui n'a pas ce livre, celui-là. Ou plutôt, qui c'est qui l'a? Oui, c'est la même chose, c'est les mêmes hadiths, c'est pas un problème. Bon, tout le monde n'a pas levé la main, c'est pas grave. Procurez-vous ce livre, Allah ybarfikoum. Ouais. Si on ressort de cette conférence avec la ferme décision de prendre ce livre, c'est magnifique. Et les enfants qui êtes présents, demandez à vos parents de vous l'acheter aussi. Ils ne vous refuseront pas. Au contraire, ils sont très heureux de vous l'acheter. Et vous, en tant que parents, procurez-vous ce hadith, ce recueil de hadith, et fixez-vous comme objectif, femme, enfant et mari, de lire 2 hadiths chaque soir. C'est comme ça que le cœur va revivre. C'est en revenant aux paroles du prophète. Le Coran, j'en parle pas. Ça, c'est la première obligation. C'est qu'il vous faut chaque jour un moment pour lire certains versets du Coran. Ne serait-ce que quelques sourates. C'est pas un problème. Ne serait-ce que quelques sourates. Mais il faut un programme. Sans programme, on n'avance pas. Sans programme, on n'avance pas. Et le prophète dit: nous, famille du prophète, quand nous faisons quelque chose, nous sommes endurants. Et faites peu, mais faites qu'il dure. Peu, mais quelque chose qui dure. L'endurance. L'endurance. Très bien. La troisième qualité, on va essayer d'être un peu plus rapide. La troisième qualité, c'est le cœur repentant. Al-qalb al-munib. On a dit premièrement le cœur. Qu'est-ce qu'on a dit premièrement? Le premier cœur, c'est Ar-Raqaba. C'est le cœur vigilant, hein, la proximité de Dieu. Le deuxième signe du cœur vivant, c'est ce qu'on vient de dire, le cœur qui est partagé entre la crainte et l'espoir. Le cœur inquiet. Troisièmement, le cœur repentant, le cœur qui revient à Dieu. Alors, on a parlé des hadiths qui nous incitent à se faire pardonner les péchés. Il y en a beaucoup. Malheureusement, le temps ne le permet pas. Il y a beaucoup de hadiths. Revenez. Revenez au Riyad Salihin, chapitre Al-Istighfar, la repentance. Vous avez des dizaines de hadiths qui vont vous montrer à quel point Dieu veut qu'on se repente à lui et à quel point Dieu accepte le repentir. Dieu est plus heureux quand l'un d'entre nous se repent que cet homme qui est sorti avec sa monture, avec toutes ses provisions, il est au milieu du désert et tout d'un coup sa monture prend la fuite. Il s'allonge, il est tout seul dans le désert, il s'allonge au pied d'un arbre et il se dit je vais mourir. Il ferme les yeux puisque sa monture est partie avec toutes ses provisions. Il attend la mort. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la monture qui est revenue. Et là, tellement il est content, il allait mourir, maintenant il va revivre. Ou plutôt, il va continuer à vivre. Et là, tellement il est content, il dit « Oh, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. » Il dit « Oh Seigneur, ou plutôt, ya Allah, oh Allah, tu es... » C'est ce qu'il dit, hein, tellement il est content. « Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Tellement il est content. Et Dieu nous dit, le prophète nous dit dans un hadith sahih, que Dieu est plus content que cet homme. Quand l'un d'entre nous vient et se repent, combien avons-nous fait de péchés ? Combien ? Beaucoup. Il suffit juste de prendre la ferme décision de revenir à Dieu. Assieds-toi, réfléchis à tes défauts, à tes vices, à tes maladies du cœur, à tes péchés, à tes manquements, à tes lacunes, et prends la ferme décision de te réformer. Et surtout dans ces 10 derniers jours. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Aisha radiallahu anha, l'épouse du prophète, la mère des croyantes, dit au prophète, dans un hadith sahih, au prophète, si Dieu me donne l'occasion de me trouver dans Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me conseilles de dire ? Le prophète lui dit, dis, ô Seigneur, tu es l'indulgent, tu aimes l'indulgence, fais-moi indulgence. Autrement dit, tu es celui qui pardonne, pardonne-moi. Donc, on insiste durant ces jours, hein, on revient à Dieu repentant. J'ai plein d'histoires ici qui sont intéressantes, mais malheureusement, le temps ne suffit pas. Je vous rapporte la quatrième qualité, hein, du cœur, c'est le cœur al-monti'a, le cœur obéissant. La quatrième qualité du cœur vivant, qui prétend vivre, qui est vivant, c'est le cœur obéissant. Et vous ne pouvez prétendre avoir un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est vivant, un cœur qui est taqi, qui est le but du ramadan, taqwa, si vous ne faites pas les obligations, vous n'accomplissez pas vos obligations. Le cheminement, il a une méthodologie. Vous commencez par les obligations, votre prière, votre jeûne, votre zakat et le hajj si vous avez la possibilité, et toutes les autres obligations. Et il y en a beaucoup d'obligations. Votre obligation envers vos enfants, votre obligation envers votre femme, envers vos parents, etc., etc., etc. On ne peut s'approcher de Dieu que si on fait, on accomplit nos obligations comme il se doit. Ensuite, quand on a fait ça, après, on ajoute les œuvres surérogatoires. Comme c'est vu dans un hadith, hein, le prophète nous dit que Dieu dit « Mon serviteur ne se rapprochera de moi ou n'atteindra mon amour que en commençant par accomplir les choses obligatoires. » Et ensuite, il accomplira les choses surérogatoires, etc., etc., jusqu'à ce qu'il soit proche de moi. Le cinquième signe ou la cinquième caractéristique du cœur vivant, c'est le cœur muhib, le cœur aimant, celui qui aime Dieu et son prophète. Posez-vous la question. Quel est, ou bien regardez dans votre cœur, qu'est-ce qui tient la plus grande place dans votre cœur ? C'est pour ça que je vous ai dit, le foot c'est un grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas que le foot. Pour moi, il y a 4 ou 5 choses qui sont des tentations qui sont terribles dans notre société. Et qui sont dans les loisirs. Vous avez le football, vous avez Internet, vous avez les portables, vous avez la musique. Ces 4 choses-là, ils font des dégâts dans la jeunesse. Moi, je vous dis, si vous prétendez avoir un cœur vivant, vous devez absolument faire un effort pour diminuer ces choses-là. Si vous pouvez les enlever, c'est encore meilleur. Moi, je vous dis, par expérience personnelle, moi personnellement, mon cheminement personnel, c'est comme ça qu'il a été. J'ai dit non à toutes ces choses. Et avant ça, j'étais comme un jeune normal dans cette société. Lorsque j'ai dit non à ces choses-là, c'est là que je me suis senti évoluer. Je vous dis, personnellement, c'est un travail intérieur. Je me souviens, quand mes petits frères regardaient la télé, ils regardaient un film ou une émission, je faisais un effort sur moi grand au début pour aller dans ma chambre et laisser tomber la télé. Alors que c'est des choses intéressantes, hein, je ne vous parle pas des choses qui ne sont pas bien, des choses intéressantes. Mais je voulais faire un travail sur moi-même. Je me suis dit, pour que j'évolue, il faut que j'ai une force de volonté. Il faut que je mette les choses les plus importantes en priorité. Donc j'ai fait un travail sur moi-même, je me disais, je ne dois pas regarder la télé. Même chose pour la musique. Je ne dois pas écouter de musique. Mais plutôt, je vais me concentrer sur autre chose. Ça m'a fait gagner du temps. J'ai eu l'occasion de me concentrer sur mes études, de me concentrer sur ma religion, et alhamdoulilah. Donc, et c'est ça que nous enseigne Ramadan. Hein, c'est, tu dois savoir dire non à tes passions et tes désirs. Car dire non à ses passions et ses désirs, c'est le premier signe de la liberté. Et vous ne serez libre véritablement que si vous débarrassez de vos passions et vos désirs. Si vous savez dire non à vos passions et vos désirs, vous savez leur mettre des limites. Alors, quelle est la chose ou la personne que tu aimes le plus? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est le football? Est-ce que ce sont les voitures? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est telle star? Moi je vous dis, et le prophète nous dit, vous ne goûterez aux saveurs de la foi et vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous mettez Dieu et son prophète au-dessus de tout. C'est-à-dire que dans ton cœur, ce qui est au-dessus de tout, c'est Dieu et son prophète. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, il faut que tu le fasses en fonction de ce qui plaît à Dieu et à son prophète, tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu laisses tout tomber. Ça veut dire que tu fais tout, mais dans les cadres de ce qui plaît à Dieu et à son prophète. À toi maintenant de revoir toute ta vie, toutes tes activités, à toi maintenant de les normaliser, de les mettre dans les cadres de ce qui plaît à Dieu et à son prophète. Dans la ayah, dans surat al-Tawba, une ayah qui est vraiment, c'est quelque chose de très éprouvant. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dis aux croyants, si, alors écoutez bien, ce verset il est clair, si vos parents, vos enfants, vos épouses, vos femmes, votre famille, votre clan, votre tribu, votre famille, votre argent que vous aimez, votre commerce dont vous craignez la disparition et l'échec, vos maisons, vos demeures que vous aimez, si tout cela, ce qui vient d'être cité, ont plus de valeur dans votre cœur, ont une plus grande place dans votre cœur que Dieu, son prophète, et, alors regardez ce qu'on rajoute, et l'effort dans la religion, l'amour de l'islam, vouloir servir cet islam, si tout ça, ça a une plus grande valeur que Dieu, son prophète, et servir l'islam, alors Dieu nous dit, attendez que s'accomplisse ma menace. Vous allez voir. Et effectivement, tous nos problèmes, ou quasiment tous nos problèmes dans notre vie quotidienne, ils viennent à cause de ça. Parce qu'on n'a pas mis Dieu et son prophète et l'amour de l'islam au-dessus de toutes ces choses de la vie quotidienne. Là, on se sentira bien. Là, notre cœur sera vivant. C'est un effort. C'est des bonnes résolutions à prendre. C'est des efforts au quotidien. C'est pas facile. Mais il y a une règle en or qui nous dit, Allah nous dit, si vous vous rapprochez de moi d'un pas, je me rapprocherai de vous de 10 pas. Si vous venez à moi en marchant, je viendrai à vous à courant. Je viendrai à vous en me précipitant. C'est une règle en or. Vous faites un pas vers Dieu, Dieu en fait 10 vers vous. Dernier Non, je pense qu'on a fini. Voilà, on a fini les non, il reste un signe du cœur vivant. C'est le dernier. C'est le cœur clairvoyant. Clairvoyant, qui voit clair. Et ça, c'est une conséquence directe de la taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, si vous avez la piété, alors Dieu va vous donner la faculté de discerner entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le prioritaire et le secondaire. Ça, c'est l'impact direct de la foi. Quand vous avez la foi, Dieu vous donne une lumière qui vous permet de faire des choix justes dans votre vie, de distinguer entre ce qui est bon et mauvais. Alors, il y a quelque chose aussi, l'impact direct de la taqwa aussi, c'est qu'il y a un impact, et ça m'intéresse beaucoup cette chose-là, c'est qu'on a un problème aujourd'hui de gestion des priorités. Aujourd'hui, dans notre quotidien, dans notre société, on a un problème de gestion des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est que je fasse cela ou ceci? Est-ce qu'il faut que je passe du temps devant cette chose-là ou bien devant cette chose-là? Est-ce que c'est mon corps ou mon cœur? Est-ce que c'est ma santé corporelle ou ma santé intellectuelle ou spirituelle? Dans l'éducation de mes enfants, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Qu'est-ce qui est prioritaire? Toutes ces questions, elles ont une réponse si vous avez la piété. Car Dieu dit, si vous avez la piété, je vous donnerai une faculté de discerner entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal, entre ce qui est prioritaire et secondaire. Donc, les choix justes dans notre vie, elles se font lorsqu'on a une lumière de Dieu. C'est-à-dire la taqwa, le cœur qui est vivant. On est obligé de s'arrêter ici, vu le temps. Il y a beaucoup d'histoires qui corroborent, qui argumentent ces points-là. Je les répète rapidement. Vous avez le cœur, le premier signe, la première caractéristique du cœur vivant, c'est le cœur, rappelez-moi, vigilant. C'est-à-dire celui qui ressent le regard de Dieu. Le deuxième, c'est le cœur inquiet, espoir et crainte. Le cœur repentant, le cœur obéissant, le cœur aimant et le cœur clairvoyant. Donc, Allah ibafikum, je veux en sortant d'ici qu'on prenne une bonne décision, c'est qu'on se procure ce livre et qu'on se mette à lire les hadiths. C'est mieux que cette conférence, c'est mieux que 10 conférences, car ça vient de nous-mêmes. Et c'est un signe qu'on veut progresser, qu'on veut cheminer vers Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a un temps pour les questions ou...
On va demander.
Donc si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Ou sinon, ben, on clôture, Inch'Allah.
Ouais. Salam alaikum, Fatman. Tu avais dit tout à l'heure, tu avais parlé des gens qui avaient une partie haute, mauvaise, et une partie bonne, et qui passaient dans un fleuve, une sorte de fleuve de paradis pour être moi je croyais que c'était plutôt Ashab al-A'raf qui passait plutôt par l'enfer pour être c'est pas la même chose.
Il y a plusieurs le jour de la résurrection il y a plusieurs catégories. Ashab al-A'raf, non, ça c'est, je ne pense pas que ça fasse allusion à ça. Il y a un verset qui dit وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer Dieu, ils auront mélangé des mauvaises actions et des bonnes actions, et c'est la majorité des gens. Alors, maintenant, ce hadith, à qui fait-il allusion précisément, à quel type, puisque ces gens-là, ils vont être plongés dans un fleuve, ils vont ressortir, Allahu a'lam précisément c'est qui. Ça peut être, il y a en tout cas une... ressemblance entre ces gens-là qu'on a cités dans le hadith et les gens qui vont être sortis de l'enfer, comme tu as dit, qui vont s'appeler Al-Jahannamiyoun, que Dieu va sortir de l'enfer par l'intercession du prophète et par l'intercession des anges, etc. Ces croyants qui ont fait des zunoub, à qui Dieu n'aura pas pardonné, qui vont entrer en enfer et qui vont ensuite être sortis et ils vont être plongés dans un fleuve. Et dans une autre version, les gens du paradis vont les arroser d'une eau du paradis et ils vont retrouver leur forme normale Et d'ailleurs, vous savez, ces gens qui vont être plongés en enfer, ces croyants qui ont refait du mal et à qui Dieu n'aura pas pardonné, qui vont passer un séjour en enfer pour se faire purifier de leurs mauvaises actions, il y a un seul endroit de leur corps qui ne sera pas brûlé. Vous savez lequel ? Tout le corps sera brûlé, sauf un seul. Et d'ailleurs, Allah dira aux anges, allez sortir les croyants qui ont un atome de foi. Vous allez en enfer, vous allez sortir tous les croyants qui ont un atome de foi, qui ont cru en moi, qui ont dit la ilaha illallah. Et comment vont-ils les distinguer entre les incroyants et les croyants ? Comment vont-ils la distinction ? Par ce signe distinctif. C'est là. Mawdi' as-sujud. Cette partie du front sur laquelle on se prosterne, elle va rester intacte. Elle ne sera pas brûlée en enfer. Et les anges vont reconnaître ces gens-là par ce signe distinctif. Ils vont être sortis. Donc vous voyez que même si on fait des mauvaises actions, il ne faut jamais délaisser la prière. Au moins, les anges vont nous reconnaître en enfer, ils vont nous sortir grâce à la prière. Au moins. Donc, ce que tu as dit, Allahu A'lam, précisément dans le hadith à qui ça fait allusion, mais en tout cas, il y aura une partie des croyants qui auront fait des mauvaises actions, qui vont passer en enfer, qui seront sortis et qui seront plongés dans un fleuve du paradis, ou qui seront arrosés par les croyants et qui vont entrer au paradis.
ذكرت في مداخلتك مجموعة من القلوب وهناك إشارة في القرآن الكريم ما الفرق بين هذه القلوب وما ذكره الله سبحانه وتعالى في النفس المطمئنة النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء
وشكرا je réponds en français hein. Ouais, d'accord, déjà là, oui, je traduis. Le frère a dit tu as donné des types de cœur. Bon, déjà, ce ne sont pas des types de cœur, ce sont des qualités de cœur. Et il a dit quelle est la différence entre le cœur clairvoyant, etc., et ce que Dieu a cité dans le Coran comme type de cœur. Hein, le cœur qui est reposé, Mutma'inna, le plus haut degré. Ammar Abisso, donc celle, le cœur qui encore est sous l'influence des péchés, des waswas du shaitan. Donc Dieu a apporté à peu près trois types de cœur, si je ne m'abuse, dans le Coran. Quelle est la différence entre ces trois types de cœur et ce que je viens de faire? Je ne me suis pas intéressé au type de cœur. J'ai apporté des caractéristiques, des qualités. Awsaf. Laysat yani asnaf min al-qulub hadi. Awsaf faqat. ولم أبني هذه المحاضرة على هذه أنواع القلوب، فالله أعلم هل هذه يعني هذه الأوصاف أين تدخل في القلب المطمئنة أو الأمارة بالسوء إلى آخره، الله أعلم، هذا بحث يحتاج إلى بحث. Là, ce sont juste des qualités, d'accord? Le cœur inquiet, clairvoyant, etc. Ce sont des qualités qu'il faut s'approprier. والحمد لله.
Salam alaikum.
Salam.
Je voulais dire c'est par rapport au livre. Je suis pas contre, hein, mais non. C'est juste par rapport au contexte. Est-ce qu'il va pas avoir des problèmes, c'est-à-dire par exemple c'est hadith sur la barbe ou sur le khamis.
Dans le
travail avec le khamis. Enfin, moi je suis pour, hein, mais je veux dire qu'il y a un contexte par rapport au contexte. Est-ce qu'il faut faire.
C'est-à-dire que celui qui lira les hadiths,
voilà.
Vu qu'il n'a pas.
Il va porter littéralement non. Directement.
Non.
Ce qu'il va lire, il va le mettre, il va le transmettre aussi sans faire attention au contexte, voilà.
Non. C'est pas un problème. C'est pas un problème parce que si on réfléchit comme ça, on lira pas le livre. D'accord ? D'une. Deuxièmement, non, je pense que les gens sont intelligents. Ouais. Et c'est pas un problème. Yani celui qui comprend le hadith dans ce que tu as dit et qu'il veut le faire, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est responsable. Hein, si il se sent bien dans ce mode vestimentaire, il l'assume. D'accord ? C'est pas un problème. Alors, ces hadiths sont généralement clairs. Et cette version, c'est pour ça que je la conseille, il y a des ta'liqat, il y a des commentaires. Qui justement, tu parlais de celui-là ? Donc celui-là, il y a des commentaires. D'accord ? Donc il y a certaines choses qui peuvent être obscures, mais je ne pense pas. Et au pire des cas, si on ne comprend pas un hadith, on revient à ceux qui ont de la science, tout simplement. Naam. Mais c'est pas un problème, je ne pense pas qu'il y ait... Non, je ne pense pas. Wallahu alam, je ne pense pas. Parce que c'est un livre mubarak, d'accord ? Et il est assez simple, ouais. Et s'il y a des ahadiths qui, par hasard, pourraient être mal compris, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que l'effet positif de ces hadiths sont plus grands que l'effet négatif présupposé qu'il pourrait y avoir. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Wallahu a'lam. Parce que dans ce cas-là, on peut dire aussi ça du Coran. Donc, est-ce que le Coran, il ne faut pas le lire ? Non. Non. Je pense que chaque personne doit se pencher sur les hadiths et sur le Coran, et si il ne comprend pas quelque chose, qu'il demande. Ou bien qu'il revienne à une explication, tout simplement. Wallahu a'lam. On clôture, Inch'Allah.
Juste, Othman, s'il te plaît, un petit rappel en dehors du thème de la conférence sur Zakat al-Fitr. Rappel aux gens sur quand et comment. Donc,
je pense que Zakat al-Fitr, elle peut être versée depuis le début du Ramadan. Déjà d'une. C'est d'ailleurs meilleur. Hein, comme ça, la Zakat al-Fitr peut être distribuée aux pauvres. Hein, non pas à la dernière minute, mais avant, afin qu'ils puissent fêter le mois de Ramadan en profitant de cet argent qu'ils pourraient recevoir. Non, Zakat al-Fitr, il faut qu'elle soit versée avant la prière. Hein, le jour de l'Aïd, il faut absolument que vous sortez cette Zakat al-Fitr avant la prière de l'Aïd. Sinon, ce n'est plus la Zakat, mais ça devient une Sadaqa. D'accord ? Et bon, maintenant, où doivent-ils la remettre ? Est-ce que vous avez une caisse ou bien vous avez...
Il y a une caisse au Jama, une partie donc sera pour les cas immédiats et environnants, et la plupart de l'argent sera reversé pour la Palestine, donc via le CBSP ou le Secours Islamique. Voilà.
Non.
Donc 5 euros par.
C'est 5 euros, hein, c'est ça, 5 euros par personne.
Par personne à charge. Le clofic. On s'arrête là.
S'il n'y a pas d'autres questions.
D'accord. Alors juste un petit rappel, donc au niveau de la conférence que vous venez d'entendre, elle sera rediffusée sur le site de la mosquée. Pour ceux qui ne connaissent pas, le site de la mosquée, vous tapez sur internet, vous cherchez ACMR et vous trouvez assez facilement. Donc ça vous fera, si vous allez louper, hein, si vous étiez un peu fatigué sur certains passages, ça vous fera un petit rappel et vous permettra de mieux comprendre certains passages. Tu clôtures.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل تلاوتنا للقرآن. اللهم اجمعنا في جنتك. اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في جنتك. اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب. اللهم أدخلنا في أعلى عليين. أدخلنا من باب الريان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها. اللهم احفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن. اللهم احفظهم من الفتن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغيرا. اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير عمرهم آخرة، وخير عملهم خواتمه، وخير أيامهم يوم يلقونك فيه. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
الله يبارك. اسمحوا لي 5 minutes s'il vous plaît. Inch'Allah, la librairie de la mosquée s'engage à ramener Riyad Salihin, à faire une commande de Riyad Salihin pour ceux qui veulent l'acheter. D'accord ? Donc, Inch'Allah, prochainement, vous pourrez vous procurer Riyad Salihin ici à la librairie de la mosquée.